Accès aux droits pour toutes et tous, ici et là-bas, c'était le thème de la rencontre proposée par le CCF des Terres Solidaires, le Comité catholique contre la faim et pour le développement Terres Solidaires, le 2 avril 2022, à la maison diocésaine de Bayonne. Accès aux droits pour toutes et tous, ici et là-bas, regard croisé à travers trois exemples, le restaurant À l'envie à Biarritz avec Nicolas Marinier, la ferme Emmaüs Bodonne à Tarnos par Gabi Muesca, l'IBC, l'Institut Bartolomeo de las Casas avec Maricielo Palomino de Lima au Pérou, partenaire du CCF des Terres Solidaires. Marie-Claire Echeverry, représentante du CCF des Terres Solidaires.
Bonjour, le CCF des Terres Solidaires du Pays Basque est très heureux de vous accueillir aujourd'hui.
Depuis 60 ans, le CCF des Terres Solidaires soutient des projets dans 70 pays en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud.
Pour plus de justice économique et sociale.
Pour que les plus pauvres aient accès aux droits fondamentaux tels que
manger à sa faim et boire de l'eau propre.
Vivre dignement de son travail.
Choisir ou construire sa vie.
Vivre dans un environnement sain.
Alors, écoutons maintenant le témoignage de ceux qui travaillent au quotidien avec les plus vulnérables pour qu'ils s'émancipent, se relèvent et se lèvent.
Ici avec Nicolas Marinier et Gabriel Muesca.
Et là-bas avec Maricielo Palomino Chupintas, c'est ça ? Voilà, du Pérou.
Nicolas Marinier, directeur de l'ESAT Caminante, établissement au service d'aide par le travail.
Je suis Nicolas Marinier et directeur d'établissement et service d'aide par le travail depuis mars 2020. J'ai exercé longtemps en centre d'hébergement, de réinsertion sociale, puis dans le secteur du logement adapté et de la protection de l'enfance. Alors j'ai appris mon métier de base d'assistant de service social en Afrique de l'Ouest, en République du Bénin, à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Je le dis toujours avec enthousiasme, ce moment du passé, car c'est bien là-bas que je me suis formé aux approches de développement communautaire. Et la force de projet, la force d'un projet là-bas, reposant sur l'identification d'un besoin expertisé et traité par et au plus près des populations concernées. Mais bon, je ne suis pas là pour parler de moi, mais plutôt pour parler d'ici et vous présenter comment nous traitons à Caminante l'accès aux droits au sein de nos établissements et services d'aide par le travail. Mais avant toute chose, permettre l'accès aux droits dans notre association des personnes que nous accompagnons suppose une posture professionnelle absolue chez les 300 salariés de Caminante, posture qui s'incarne chaque jour au travers de 5 valeurs que je vais vous nommer et qui font les fondations de notre association. L'exemplarité, et l'exemplarité s'appuie entre autres sur le respect inconditionnel des personnes, qu'elles soient accueillies ou qu'elles soient encadrantes. L'écoute, indispensable pour mettre en équilibre la réflexion et l'action. L'engagement qui est adossé à l'exercice des responsabilités, ces dernières étant partagées dans le respect des places et des rôles de l'autre. Et puis l'espérance aussi, qui nous amène à parier sur les potentialités des êtres avec lesquels nous travaillons. Et puis enfin l'humilité qui nous renvoie à nos propres insuffisances pour améliorer nos savoir-faire, nos savoir-être et surtout pour faire ensemble et agir dans notre association en faveur de personnes, enfants, adultes, en situation de handicap pour les rendre acteurs de leur propre développement, pour écouter, pour décider, pour veiller, pour mobiliser et anticiper pour être au plus près d'elles, de ces personnes accueillies, et co-construire avec elles un devenir partagé sur la base de projets réfléchis et éprouvés dans le respect inconditionnel de la dignité de tous. C'est aussi faire ensemble pour s'engager, pour développer leur potentialité dans le respect des places, des rôles, des espaces, des temporalités et des possibles de chacun. Voilà, mon association Caminante est une aventure humaine. Elle est partagée par 300 salariés répartis sur 36 établissements qui sont les ressources partagées de ce projet. Caminante accueille 625 personnes, 2017 usagers en file active, pour des prises en charge liées aux addictions. Parmi toutes ces personnes accueillies, 115 travailleurs handicapés sont accueillis par 30 encadrants sur un établissement et service d'aide par le travail réparti en 4 lieux, les AT du Marensin, à l'Esperon et à Castets, dans les Landes, les ateliers de Caminante, qui est situé à Saint-Vincent de Tyrosse, et les ateliers d'Allonvie, qui est situé à Biarritz. Qui sont ces personnes accueillies par les établissements et services d'aide par le travail? Toutes les personnes que nous accueillons sont porteurs d'un handicap psychique et qui ont vécu des ruptures dans leur passé. Ce que je peux en dire et ce qu'ils me témoignent chaque jour quand on travaille avec eux, c'est qu'ils recherchent d'abord la possibilité de renouer ou de débuter une activité professionnelle, leur permettant, au support d'un projet personnalisé, de valoriser leurs compétences, pour restaurer leur dignité, pour reprendre confiance en eux, pour développer des apprentissages, tisser des liens sociaux, souvent rendus compliqués en raison de leur handicap psychique. D'autres personnes accueillies présentent une déficience intellectuelle ou cognitive avec différents troubles associés, comme des troubles du langage, de la mémoire, avec des troubles associés au niveau sensoriel. Pour certains d'entre eux, le principal handicap s'articule autour de la psychose. Certains ont déjà travaillé en milieu ordinaire et présentent lors de leur admission beaucoup de compétences intellectuelles, beaucoup de compétences techniques que leur trouble peut rendre inefficientes. Et notre travail d'accompagnement ou d'accès aux droits, c'est bien de pouvoir faire réémerger ces compétences, de parier sur la continuité des soins en leur offrant un environnement de travail adapté qui peut rendre compatible la maladie mentale et la vie sociale. Chaque jour, dans nos établissements, ces personnes accueillies sont accompagnées par un cœur de métier principal qui est celui de moniteur d'atelier. Et l'établissement et service d'aide par le travail apportent à chaque personne accueillie, à chaque handicapé psychique, des activités structurées. Notre établissement cherche à les intégrer dans les meilleures conditions possibles et souhaitables, même si elles sont en situation de handicap, le but étant quand même de les faire réaccéder à une vie sociale et professionnelle comme nous. Et nous sommes comme eux. Enfin, ce qui caractérise notre établissement, c'est que c'est à la fois une structure médico-sociale, mais avec une activité de production. Et il est nécessaire pour nous de trouver un équilibre entre les activités proposées aux personnes accueillies, en mettant en valeur leurs capacités, tout en assurant à l'établissement un équilibre financier. Mais il est primordial aussi pour nous, dans la manière qu'on a de co-construire le projet de l'établissement avec elle, il est primordial que le commercial soit un moyen au service de l'accompagnement et de l'intégration des personnes vulnérables. Voilà. Notre but n'est pas de réaliser des bénéfices à tout prix, mais de prendre soin des gens avec lesquels nous travaillons et avec lesquels nous formons équipe. Alors parier sur la potentialité individuelle des gens que nous accueillons, des travailleurs que nous accueillons, pour produire des services collectifs en direction des particuliers, en direction des acteurs du secteur marchand, en direction des collectivités publiques, mais en permanence une tension pour garder un équilibre entre garantir du soin dans notre organisation, le soin qui est l'attention particulière portée à l'autre en s'adressant de manière empathique, en prenant et en accueillant sa vulnérabilité ou sa dépendance, une articulation avec le travail. Alors, le travail, qui dans une société de travailleurs est facteur d'intégration, d'utilité, de participation, mais surtout de socialisation, avec la nuance en ESAT, en établissement et service d'aide par le travail, que le travail n'est pas une fin en soi, mais un outil pour s'engager dans des dépassements, dans des changements, pour s'éprouver et s'expérimenter, parfois beaucoup plus que pour éprouver la reconnaissance sociale d'être travailleur. C'est très très important. Nous postulons donc dans nos établissements que le travail n'est pas utile de la même manière pour tous. Et dans notre ESAT, à Caminante, encadrants et personnes accueillies cheminent ensemble dans le respect des temporalités et des possibles de tous, dans le respect des rôles des uns et des autres. Et pour cela, notre établissement et service d'aide par le travail s'appuie donc sur une double fonction, qui est une fonction d'accompagnement social, médico-social, pour favoriser l'autonomie des personnes, valoriser et développer leurs compétences personnelles, sociales, techniques. Et l'autre fonction, c'est celle de l'apprentissage, de la professionnalisation, pour favoriser une inclusion socio-professionnelle et adaptée par le travail, par l'économie. Nous accueillons des publics qui ne sont pas tout à fait comme on voudrait qu'ils soient, mais on peut se dire qu'ils pensent de nous la même chose et qu'on n'est pas tout à fait comme ils voudraient qu'on soit. Et c'est ce cheminement qui nous permet d'avancer ensemble et de co-construire l'ensemble des projets. Les personnes accueillies aujourd'hui dans notre établissement exercent leur pouvoir d'agir et sont quotidiennement associées à nos processus de décision pour penser nos organisations d'aujourd'hui, mais également nos organisations de demain. Quelles sont les activités que nous déployons avec nos travailleurs protégés ? Je ne devrais même pas dire nos travailleurs protégés, pardon, avec les travailleurs protégés que nous accueillons, de la restauration, avec le restaurant d'Alenvy, situé à Biarritz. Nous développons aussi une filière de création et d'entretien d'espaces verts, et les travailleurs protégés assurent des travaux de tonte de pelouse, de débroussaillage, de taille et de petit élagage, des créations de massifs, des aménagements, des plantations et d'entretien de gazon, des poses de clôture, entretiennent des systèmes d'arrosage et installent aussi des systèmes d'arrosage. Sur l'ensemble des établissements ESAT que nous avons, on développe des services de mise à disposition, des mises à disposition individuelles ou collectives, où les compétences qu'on a pu identifier chez les travailleurs protégés que nous accueillons sont mises à la disposition des entreprises du secteur marchand, des collectivités territoriales, du secteur associatif, notamment des EHPAD. On a développé depuis 2 ans un petit service de désinfection et de nettoyage de fauteuils roulants en EHPAD, qui rend bien service à ces structures et qui est animé et géré par les travailleurs protégés. Nous avons également un atelier de création de mobilier en bois, d'agencement d'espace et de multiservices. Et puis nous avons à Casse-Tête une blanchisserie industrielle qui travaille pour des entreprises et pour des particuliers. Mais je crois qu'au-delà de ces activités qui sont déployées par les ESAT, ce qui est important pour moi, quand on parle d'accès au droit, c'est de vous dire que avec chaque travailleur des ESAT, c'est avec chaque travailleur des ESAT que les projets se co-construisent, que nous prenons des décisions pour les ESAT tels qu'il sera demain et puis aujourd'hui. Et vous savez, les travailleurs protégés, cet esprit de travail qui nous anime, on le leur doit bien. Parce que nous, professionnels, ils sont quelque part notre raison d'être. Ils tiennent avec nous nos bords de projet. Et si on peut tenir nos bords de gestionnaires d'établissements, d'animateurs de projets, c'est parce qu'ils sont liés à nous et qu'ils cheminent avec nous à nos côtés. Et qu'ils s'adossent aussi à notre projet d'établissement. le sentiment d'utilité sociale, d'appartenance sociale. Tout ça, ça ne se décrète pas. Et pour que ça puisse s'éprouver, ils sont modélisés dans notre organisation de travail, en fait, avec un équipage. Et je dis équipage parce que je fais référence souvent à l'équipe encadrante, des moniteurs d'atelier, de toute la logistique qui est mise à la disposition d'un établissement. Je fais référence à cet équipage parce que l'équipe encadrante et les travailleurs protégés sont côte à côte. Avec l'énergie d'un collectif, chacun donne le meilleur de soi-même en conjuguant des singularités, des sensibilités, tous au service d'un projet. Et c'est ce projet qui nous fédère et qui fédère les travailleurs protégés aux côtés des moniteurs d'atelier. Chacun, je pense, respectant la place de l'autre, à l'écoute des besoins, des attentes et des suggestions des uns et des autres, dans des mouvements de réciprocité où le public accueilli aujourd'hui fait valoir ses suggestions, fait valoir ses aspirations, fait valoir ses demandes qui doivent être accueillies, traitées, accompagnées et pour lesquelles l'institution apporte réponse. Et puis je crois que l'accès au droit aussi, je le disais un peu tout à l'heure, c'est parier sur des potentialités, c'est aussi confier des responsabilités. C'est confier des responsabilités aux personnes que nous accueillons. C'est pas être dans le niant-niant ou dans le jugement, surtout pas. C'est confier des responsabilités en mettant les personnes accueillies dans une réalité qui est celle du monde du travail, même s'il est adapté, parce que dans les organisations qu'on met en mouvement, le travailleur protégé, il choisit pas son collègue non plus, il choisit pas le travailleur protégé avec lequel il va partir en équipe le matin sur un chantier en espace vert ou avec lequel il va devoir assurer le service pour 70 couverts sur le temps du repas de midi au restaurant d'Allenvy. Mais il ne choisit pas non plus le moniteur d'atelier avec lequel il est. Et je crois que notre devoir d'institution aussi et d'accompagnateur, c'est de les mettre en situation d'être au plus près de la réalité de vie à laquelle vous et moi sommes confrontés quand nous nous rendons au travail. On parier sur eux, c'est leur accorder des responsabilités et c'est parier sur vraiment leur potentialité. Et parfois, quand on fait des pas de côté, les travailleurs protégés qui sont accueillis ont une faculté pour percevoir des émotions, pour percevoir des réalités que nous ne possédons pas. Et c'est cette différence, et ce droit à la différence, et cet accueil de la différence, quand il est pratiqué chaque jour, quand il est animé chaque jour, c'est cet esprit de travail qui nous permet d'être dans la reconnaissance des droits d'une personne dans sa globalité. Je crois que les ESAT à Caminante existent depuis plusieurs années et la possibilité qu'on a de passer du collectif à l'individuel nous ont appris, et travailleurs protégés et salariés, hein, à mettre en valeur nos expériences, à mettre en valeur aussi la capitalisation des savoir-faire et des savoir-être que nous avons développé au fil des années et que nous pouvons aujourd'hui retraduire en compétences singulières et en compétences collectives. Je crois que maintenant, on connaît bien tous nos travailleurs protégés et on a bien identifié chez chacun d'entre eux, à partir de leurs souhaits, de leurs attentes, de leurs suggestions, ce qu'ils veulent devenir, comment ils veulent le devenir. Et je parlais de responsabilité et de potentialité. Aujourd'hui, on a des travailleurs protégés qui expriment leur souhait d'aller s'expérimenter ou se réexpérimenter au travail en entreprise, en milieu ordinaire. Et quand c'est posé, dans une réunion avec eux, notre devoir, c'est de s'engager à leur côté et de leur montrer le chemin, de rester à côté pour qu'ils puissent aller dans ces entreprises. Alors ça mobilise de l'énergie, c'est pour ça des droits, des devoirs, ça mobilise de la mise en relation, ça mobilise beaucoup d'énergie et beaucoup d'humilité. Parce que partir avec une équipe de travailleurs protégés dans une entreprise, pour accompagner les entreprises aujourd'hui ou les collectivités territoriales, à parier sur la potentialité des travailleurs protégés et leur laisser l'occasion de les accueillir au sein de leurs propres organisations, je peux vous garantir que ce n'est pas une mince affaire. Et c'est un combat à la fois pour notre institution, mais c'est un combat également pour les travailleurs protégés qui doivent aussi dépasser certaines peurs et se dépasser chaque jour pour relever ces défis. Voilà.
Gabriel Mouesca, fondateur et directeur de la ferme Emmaüs Bodon à Tarnos.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, je salue évidemment le CCFD pour cette excellente initiative. J'ai repris de l'énergie en rentrant dans cette salle, parce que lorsque je voyais l'affichage du CCFD, les slogans, et comme ils sont diamétralement opposés à ce qu'on entend longueur de journée dans la presse aujourd'hui, où je vois parler de solidarité, je vois des choses extrêmement positives et fraternelles, ça fait du bien. Donc je remercie le CCFD de cette initiative. Je suis donc le fondateur et le directeur de la ferme Emmaüs Bodon. La ferme Emmaüs Bodon, c'est une ferme qui appartient au mouvement Emmaüs, qui a été créé, comme vous le savez, par l'abbé Pierre, diront la majeure partie, mais je ne dirais pas que l'abbé Pierre, parce que je tiens à souligner que dans les fondateurs, il y avait une certaine Lucie Coutaz, une femme qui a été le bras droit de l'abbé Pierre pendant 40 ans, une femme qui a permis à ce que l'abbé Pierre évite de faire beaucoup de bêtises. Donc je tiens toujours à rendre hommage à cette femme, parce qu'aussi, historiquement, Emmaüs, c'est plutôt très, très mal, très machiste, pour ne pas dire. Et donc il faut mettre en avant cette réalité-là. Et puis notre réalité, c'est que le premier compagnon d'Emmaüs, qui s'appelait Georges Leguet, c'était un type qui était un ancien bagnard, qui a fait 20 ans de bagne. Donc tout ça pour vous dire que dans l'ADN de ce mouvement que beaucoup de Français et de Françaises aiment, et au-delà, parce que c'est un mouvement aujourd'hui international, il y a une femme aussi avec l'abbé Pierre, et puis il y a un bagnard. Ces gens-là qui sont tellement stigmatisés, ces gens-là qui sont tellement rejetés, eh bien ce mouvement que vous aimez tant, il y avait un bagnard à l'origine. Bien, ceci étant dit, nous sommes un établissement aujourd'hui qui est unique en Europe, un établissement unique parce qu'on accueille des femmes prisonnières. Les femmes que nous accueillons, que vous rencontrez, peut-être vous étiez ce matin au marché de Bayonne, peut-être que vous êtes passé devant notre stand, eh bien une partie des personnes qui étaient derrière le guichet sont des personnes détenues. Hein. Ce n'est pas des gens qui sont en fin de peine, ce sont des gens qui sont aujourd'hui sous main de justice. Et par exemple, pour être clair, une personne que nous accueillons l'an dernier a fait le choix de partir de la ferme, sans me prévenir évidemment. On appelle ça une évasion. Hein. Et il est de ma responsabilité d'appeler l'autorité, gendarmerie, justice, pour effectivement que cette dame soit récupérée et malheureusement rejugée et recondamnée et retourne en prison. Donc il s'agit bien d'un établissement qui accueille des femmes détenues et qui nous rend unique. Une autre chose aussi que je tiens à souligner, qui est importante pour moi, qui est peut-être même le motif le plus grande fierté, ce que nous accueillons aussi, nous sommes agréés pour recevoir des personnes transgenres. Il faut que vous sachiez que les prisons françaises que nous finançons avec nos deniers et que les mesures de justice qui sont rendues en notre nom au quotidien, eh bien aujourd'hui il y a à peu près une quarantaine de personnes transgenres qui sont dans les prisons incarcérées. Et ces 40 personnes se trouvent dans les quartiers hommes, à l'isolement. À l'isolement parce que si elles allaient en quartier classique, eh bien ces personnes subiraient un sort extrêmement violent. Donc ce sont probablement les personnes qui vivent les conditions de détention les plus dures aujourd'hui en France. Et pour nous, c'est une grande satisfaction et un honneur de pouvoir accueillir ces personnes. Et ça se passe très très bien. On parlait d'accès au droit. Les personnes que nous accueillons viennent d'un monde qui est celui de la prison, où le droit, quand on parle droit, c'est bien souvent le droit du plus fort. Hein. quand vous rentrez en prison, vous comprenez de suite que les ressorts de votre humanité que vous devez travailler au quotidien pour ne pas vous faire écraser, c'est les mauvais ressorts de notre humanité. C'est-à-dire le rapport de force, la violence réelle, symbolique. C'est ça, du premier au dernier jour. Malheur à celui qui est fraternel. Malheur au gentil. Hein. Et là aussi, citoyens et citoyennes qui êtes devant moi, on peut se poser la question, comment ça se fait qu'avec nos deniers, un lieu qui est un outil social de la République, que nous acceptons comme outil, puisse marcher sur les mauvais ressorts de notre humanité? C'est la question que je vous pose. Comment, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une institution, des gens qui en sortent quand on marche sur ces mots, on fonctionne avec ces mauvais ressorts de notre humanité? La ferme, j'ai coutume de dire que nous sommes l'anti-prison. C'est-à-dire que nous essayons au quotidien, et ce n'est pas toujours évident, tu as évoqué le mot d'humilité, et c'est vrai que dans notre action, c'est l'humilité que l'on doit avoir comme canne au quotidien. Eh bien, ce qu'on essaye de travailler, c'est les bons ressorts de notre humanité. Celui qui lie l'un à l'autre, celui de la fraternité, ou plutôt de la sororité, hein, là aussi le lien entre femmes, parce que majoritairement dans notre structure, ce sont des femmes qui vivent au quotidien. Donc, et aussi tout ce qui est du domaine de l'action positive. C'est ça qu'on essaye de remuscler chez les personnes que nous accueillons. Je disais que ces femmes viennent d'un lieu qui est la prison, où le droit est un droit, celui du droit du plus fort, ou même certains niveaux de droit qui sont le droit commun dans le monde extérieur n'existent pas. Le droit d'expression n'est pas accepté. Si j'envoie un courrier, un simple courrier à un directeur de prison où je dis je voudrais qu'il y ait deux fois plus de frites en semaine, eh bien le directeur va l'accepter. S'il y a la signature du co-détenu, c'est une pétition, et une pétition, c'est interdit. C'est-à-dire que vous allez passer en procédure disciplinaire et que vous risquez d'aller au mitard. Le droit du travail. Vous savez qu'aujourd'hui, le seul endroit en France où vous travaillez à la pièce, eh bien, c'est en prison. Vous êtes dans des établissements où des gens sacrifient l'autorisation de rencontrer leur famille, d'aller au parloir, même d'aller à la messe, parce qu'ils doivent produire du travail, parce qu'ils doivent remplir des poches de 1000 petits objets pour avoir 2 euros, etc., etc. Et ça prend tellement de temps pour avoir un petit peu de salaire, eh bien, qu'ils en arrivent à sacrifier d'autres droits. Le droit du travail, c'est pour moi, ça a été un combat depuis maintenant des années, pour ne pas dire des décennies. Il y a peut-être parmi vous des syndicalistes ou des anciens syndicalistes. Je suis totalement effondré, pour ne pas dire scandalisé, par le silence des syndicats sur ce qui se passe aujourd'hui dans les prisons. Hein. Madame va nous parler de son pays où effectivement les questions de droit peuvent se poser à un autre niveau. Mais je suis scandalisé que dans le pays dit des droits de l'homme, eh bien qu'il y ait des gens qui soient considérés comme des sous-travailleurs, des gens qui n'ont pas accès au droit du travail. Eh bien, nous, là aussi, à la ferme Emmaüs Bodon, nous accueillons des femmes qui ont des contrats de travail de 26 heures payés au SMIC. Elles bénéficient de tout le panel du droit du travail qui s'applique à tous les travailleurs et travailleuses en France. Et pour moi, c'est un grand motif aussi de satisfaction. Le 8 mars... Je ne vous dirai pas quelle date spécifique c'est dans notre calendrier. Le 8 mars, nous avons fait intervenir une dame qui était qui travaillait sur la question des droits des travailleurs dans les Landes. Et cette dame est venue faire un exposé devant nos résidentes. Hein. On appelle résidentes chez nous les personnes qui sont personnes détenues. Donc les résidentes ont eu droit à savoir ce qu'était le droit du travail, puisqu'elles étaient salariées, puisqu'elles sont salariées, et que ça leur ouvre le champ du droit, mais aussi des devoirs. Et à partir de ça, évidemment, hein, on parle de la société, telle qu'elle est organisée, eh bien, il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs. Et c'était extrêmement important. Et elles ont mesuré, l'abîme qu'il y a entre ce qu'elles ont connu, certaines, il y a encore quelques mois, où elles travaillaient au fond des prisons, et puis ce qu'elles vivent aujourd'hui, normalement, dans notre ferme, c'est-à-dire travailler en ayant l'accès aux droits, en ayant l'accès, par exemple, aux congés payés, à la maladie, etc., etc. Donc, nous, elles sont passées d'un monde où il y a une forme de négation de la logique du droit à un monde dans lequel le droit est reconnu. Le droit qui est reconnu parce que nous considérons que non seulement notre travail, c'est de ramener à une forme de dynamique de vie ces personnes, ramener à une forme de fraternité ou de sororité qui leur a été niée en prison, mais aussi remuscler la question de la citoyenneté. La question de la citoyenneté qui passe aussi par ce rapport aux droits et aux devoirs. J'ai une question par rapport aux droits aussi qui se posait de façon assez prégnante. Récemment, j'étais sur Lyon, où on me parlait justement du droit de vote, par exemple. Et bon, peut-être certains d'entre vous ne savent pas, mais pendant 5 ans, j'étais le président de l'Observatoire international des prisons à Paris, et donc une structure citoyenne qui s'occupe de l'application des droits derrière les barreaux. Et on me disait, mais le droit de vote, bientôt on va voter, etc., etc., est-ce que c'est quelque chose que vous portez tout ça? J'ai dit, non. Pour moi, c'est un droit secondaire. Alors, j'espère que je ne choque personne, mais je dis, nous sommes encore dans un moment où il nous faut exiger le droit au respect de la dignité de la personne humaine incarcérée en France. Lorsque nous aurons garanti ces droits des personnes détenues, mais aussi le droit à la dignité respectée, en permanence et en tout lieu dans les prisons, eh bien là, effectivement, nous pourrons parler de nouveaux droits qui sont les droits liés à la citoyenneté. Mais d'abord, garantissons les droits de l'homme, et nous sommes loin du compte. Ce matin encore, j'étais dans une, avec les nouveaux chiffres transmis officiellement par le ministère de la Justice, nous avons dépassé le cap des 70 000 prisonniers, en rappelant que nous sommes dans un pays où il y a 60 000 places. Nous avons aujourd'hui plus de 1400 personnes qui dorment dans des matelas par terre. Il y a déjà 2-3 personnes dans la cellule et une personne par terre sur un matelas. Qu'est-ce que nous attendons de ces personnes-là? Est-ce que vous pensez qu'elles sortiront de prison en étant fraternelles à notre égard? Est-ce que vous attendez que ces personnes respectent la loi? Avec nos deniers, nous fabriquons des bombes humaines. Je reviens à la ferme, Emmaüs Bodone, parce que c'est quand même le sujet. Et puis parce que, je dois le signaler aussi, la ferme Emmaüs Bodone, c'est pas un petit mec comme moi qui a lancé la machine. C'est beaucoup, beaucoup de solidarité. D'abord Emmaüs, j'ai évoqué Emmaüs au début. C'est Emmaüs qui a eu le courage d'accepter qu'un ancien taulard, un ancien terroriste, permets-toi d'utiliser ce mot, puisse prendre l'engagement de créer une telle ferme. C'est le mouvement Emmaüs qui fait ça. Je rappelle qu'il y a un homme qui vit à Bayonne, qui était responsable de la communauté de Tarnos il y a peu, qui a été président d'Emmaüs France pendant un an. Un homme qui était de la rue et qui est sorti de la rue pour entrer à Emmaüs et qui pendant un an côtoyait, saluait les ministres, les directeurs des grandes administrations françaises. Il était à un niveau d'égalité avec ces gens-là. Et tout le mérite revient au mouvement Emmaüs. C'est Emmaüs qui a voulu ces fermes-là. C'est Emmaüs qui, depuis 72 ans, existe et revisite la solidarité dans notre pays et réinvente des outils en permanence. Et la ferme, et les fermes, parce que nous sommes aujourd'hui 4 fermes en France, nous sommes dans cette logique de créer de nouveaux outils au service de la solidarité, de nouveaux outils au service des plus bannis, des plus rejetés de notre société. Parce qu'il faut être clair, l'équilibre que nous recherchons, nous, dans nos vies, à titre individuel et à titre collectif, qui devait être l'obsession de tous les gens qui se revendiquent responsables politiques, l'équilibre, on n'y parviendra que quand nous ramènerons à notre famille humaine, à notre société, toutes ces populations marginalisées. Malheureusement, force est de constater, nous sommes en pleine campagne électorale, j'entends très très rarement des gens qui se soucient des personnes avec handicap, des personnes qui sont à la rue, des personnes qui sont sous main de justice. C'est-à-dire que les gens qui ont la prétention de prendre les rênes du pays pour les 5 ans à venir ne mettent pas comme priorité, ça devrait être une priorité nationale, de nous occuper de ces gens-là. De dire, sans que ces gens-là nous retrouvent au sein de la société des biens portants, eh bien notre société sera bancale. Elle sera une société de violence. Et nous sommes aujourd'hui, à nouveau, devant 5 ans qui s'inscrivent. Alors évidemment, on a droit à penser que tout est possible et que les miracles ne se produisent pas qu'à Lourdes. Peut-être que demain, en France, d'autres miracles se produiront. Mais en tout cas, au regard de ce qui se passe, de ce qu'on entend aujourd'hui, malheur aux pauvres, malheur aux gens qui n'ont pas eu les chances d'être intégrés dans la société. les gens que nous accueillons, la famille Maïs-Baudon, parfois on dit « Ah, c'est leur deuxième chance ». Je dis « Non, 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 ce n'est pas une deuxième chance. Pour la majeure partie d'entre elles, c'est leur première chance. J'accueille des femmes qui ont connu la violence lorsque leur maman les portait dans le ventre. Ça n'excuse pas les actes que ces gens ont posés. Je ne suis pas là pour excuser. Je suis là pour expliquer le cheminement délinquant, voire criminel. Voilà. Et que nous sommes tous co-responsables de la situation de ces gens-là. Nous sommes invités ici par CCFD Terre Solidaire. Il y a d'autres associations, d'autres personnes, même à titre individuel. Je vois des prêtres ici dans la salle qui travaillent au quotidien pour soutenir les personnes les plus vulnérables. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de gens. Et je vois, excusez-moi le terme, peu de jeunes dans notre salle. Je suis inquiet par rapport à l'avenir à court-moyen terme. Voilà. Il nous faut faire un effort important pour ranimer cette flamme de la solidarité. J'invite, et d'abord en premier lieu à Emmaüs, aller dans les lycées, aller dans les universités, aller auprès des jeunes pour leur dire qu'il y a un sens formidable qui peut donner à la vie de chacun, le sens celui de la solidarité, de tendre la main, d'accompagner. Donc je vous le demande, comme je me le demande au sein d'Emmaüs, nous avons un travail formidable à faire pour aller vers la jeunesse, pour leur dire que l'avenir ne s'inscrit pas uniquement dans la consommation, mais il s'inscrit dans la fraternité, dans la sororité, et que nous avons tous notre travail à faire. Les personnes qui sont à la ferme Emmaüs-Baudon, il n'y a pas de barreau, il n'y a pas de mirador. Hein. Et si quelqu'un s'échappe, je ne vais pas courir derrière après. Malheureusement, il y a un processus que j'ai à suivre avec la gendarmerie, l'appareil judiciaire, etc., etc. Mais sur la table, chaque fois que j'accompagne, la semaine dernière, j'ai accueilli une nouvelle personne. C'est la confiance qu'on met sur la table. La confiance. Or, dans votre vie, comme celle de l'institution dans laquelle je suis, eh bien, la confiance, eh bien, il peut y avoir 1 sur 10 qui va la trahir. Ça arrive dans nos vies. Vous avez une amitié, quelqu'un qui vous trahit. Ce n'est pas pour autant que vous allez renoncer à la notion de confiance. Je pense que la base du cheminement auprès de ces personnes-là, c'est la confiance. Après, il y a un cadre. Hein. On parlait d'institutions. Pour nous, c'est pareil. Il y a un cadre, il y a un règlement intérieur. Il y a aussi ce que les juges d'application des peines qui nous confient ces personnes ont comme exigence par rapport aux personnes qui nous accueillent. Mais la confiance, le respect, le non-jugement et la bienveillance, c'est un petit peu les ingrédients que l'on mélange au quotidien, et bien que nous puissions vivre en bonne intelligence et en fraternité et en sororité. Nous accueillons actuellement 7 femmes détenues. Nous avons un potentiel de 12 places. Et donc vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'il y a des places libres alors qu'on parle tellement de surpopulation pénale, que tous les 6 mois, une prison est condamnée par les tribunaux de la République, etc., etc. C'est parce que nous sommes dans un pays extrêmement répressif, où pour les magistrats, ce qu'on appelle ou les alternatives ou les aménagements de peine ne sont pas une véritable peine. Hein. Peine dans le sens provocateur de souffrance, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, moi, ces gens-là, assez bien pensants, je leur dis, il fallait venir il y a 3 semaines, lorsqu'à 8h30 du matin, comme elles travaillent tous les matins à 8h30, il fallait aller dans les champs où il faisait moins de 2 degrés, où elles étaient à genoux sur terre en train d'enlever mauvaises herbes. C'est-à-dire que c'est vraiment un travail difficile. Et ce que nous demandons au quotidien, c'est effectivement pas mal de contraintes. C'est pas la prison, hein, heureusement, hein, je veux dire, c'est notre volonté que ce soit une sanction positive, ce que j'appelle une sanction citoyenne qui permet aux gens de se relever et de se remettre en marche, ce qui n'est pas évidemment, comme vous le savez, la prison. Et donc, le matin, de 8h30 à 13h, avec une petite coupure d'une demi-heure pour boire le café, elles sont au champ, et l'après-midi, elles font tous les travaux qui sont liés à ce qu'on appelle l'insertion de façon générale, c'est-à-dire l'accès aux soins pour les personnes, majoritairement, elles ont des problèmes de santé, mais il y a aussi tout ce qui est l'accès à l'administratif, à remettre les papiers en bon ordre, mais aussi l'accès à la culture, à accès à l'art, parce que pour nous, c'est aussi la dignité de la personne, ce n'est pas lui donner à manger 3 fois par jour, accès à l'hygiène et au travail, c'est aussi l'accès à la culture et à l'art, et on essaye au maximum de faire qu'il y ait des activités qui intéressent à la demande des personnes, d'ailleurs, et ce n'est pas nous qui, qui apportons, j'allais dire, du fait main aux personnes que l'on accompagne, c'est elles qui nous demandent d'avoir accès à telle ou telle activité. Voilà, c'est donc, ça commence tôt le matin, ça se finit à 19h. Il n'y a pas de sortie, j'allais dire, sans accompagnement. Nous avons une équipe, et quand je dis accompagnement, avec autorisation, de ma part et du juge d'application des peines de Dax. Et nous sommes un groupe d'encadrement de 5 personnes professionnelles, dont un maraîcher, dont une ASP, une accompagnatrice socio-professionnelle. Nous avons aussi une des salariées qui est une ancienne résidente. Hein. Là aussi, on est très dans la logique emmaüsienne, c'est-à-dire que nous avons aussi des gens qui viennent du statut précédent et qui trouvent leur place en tant qu'encadrant, et c'est très important pour nous. Et puis, voilà, un petit peu, nous faisons en sorte que, dans les meilleurs délais, j'espère au début du second semestre, les 12 chambres soient véritablement occupées par 12 personnes. Merci pour votre attention.
Maricielo Palomino de l'Institut Bartolomeo de las Casas de Lima au Pérou. Et vous entendrez ici la traduction française de son interprète.
Buenas tardes con todos. Yo soy Maricielo Palomino. En verdad estoy muy contenta de poder también participar en este encuentro y conocerlos. Soy comunicadora social, tengo 28 años y trabajo en el Instituto Bartolomé de las Casas en Lima, Perú.
Bonjour à tous, je m'appelle Maricielo Palomino et je suis très heureuse de pouvoir participer à cette rencontre. Donc je suis communicante sociale, j'ai 28 ans et je travaille à l'IBC, l'Institut Bartolomé de las Casas, à Lima, au Pérou. Donc le Pérou peut être représenté par cette photo. C'est un portrait, une représentation de la situation très critique qui s'est déroulée pendant le confinement. Donc on peut voir des familles qui font la queue. Donc cette photo se déroule dans la capitale du pays, Lima. Et donc ils faisaient la file pour pouvoir obtenir la nourriture puisqu'ils ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins. Donc au Pérou, il existe deux types de pauvreté. On peut donc tout d'abord parler de celui qui a de l'argent ou celui qui n'en a pas, mais aussi dans le manque d'accès à une vie digne, donc par le manque d'accès à l'éducation, au système de santé, au logement ou même à l'eau. Et donc c'est pour ça qu'on se demande qu'est-ce qui fait qu'on est pauvre, qui est le pauvre au Pérou. Donc il y a énormément donc d'inégalités. Donc ce sont ceux qui possèdent le moins ou ceux qui n'ont pas de droit, de pouvoir. Et donc depuis l'IBC, nous travaillons avec l'option préférentielle pour les pauvres. Donc la personne que vous avez pu voir sur la vidéo est le fondateur de l'IBC, Gustavo Gutiérrez. Et donc il y a plus de 40 ans, avec un groupe de la haie, qu'ils ont créé cette institution en partant de cette question « qui est le pauvre ?» puisqu'on le voyait comme l'objet de notre aide, plutôt qu'une personne qui est comme nous, à qui on pourrait offrir les mêmes opportunités. Donc avec cette perspective, avec cette amitié avec le pauvre, pour éviter cette démarche d'assistanat, grâce à cela, on peut se rapprocher ainsi leur permettre de changer leur réalité. À ces personnes qui possèdent le moins. Dans un pays comme le Pérou, c'est la méconnaissance des citoyens qui fait que des situations comme celle sur la photo, on peut voir des personnes qui vivent en Amazonie, donc qui est l'endroit où il y a le plus d'eau, mais qui n'est pas potable. Donc dans ce cas, nous travaillons avec des personnes qui ont une culture différente, donc ces populations indigènes qui ont une langue qui est différente des langues occidentales. Ils vivent dans la zone de l'Amazonie, qui est donc la plus étendue. Et donc ces personnes sont face à des combats, notamment la lutte pour la protection de leur territoire. Donc en voyant toutes ces situations, nous pensons qu'il faut répondre depuis la formation. Donc à l'IBC, nous formons les différents leaders de ces communautés, donc dans toutes les régions du Pérou. Et en fonction de leur réalité, donc par exemple l'inégalité des genres, la destruction de leur territoire, avec notamment la pollution de leurs fleuves et donc de leurs forêts, Également, il y a la discrimination, le manque d'accès à l'éducation, à l'eau ou au système de santé. Et donc tout cela se base sur le manque d'accès aux droits, qui est l'une des problématiques principales au Pérou. Donc cette formation est une formation populaire qui se dirige à des personnes catholiques comme non catholiques, à des gens qui vivent à Lima ou d'autres régions du Pérou, à des jeunes comme à des adultes qui sont représentants de leur communauté, qui sont traversés par différentes problématiques. Et par exemple, une de nos actions est un programme d'école des leaders qui donc se déroule chaque année. Donc on leur fournit ces outils qui leur permettent de répondre à leurs besoins et à leurs problématiques. Pour vous donner un exemple concret de ce que nous faisons à l'IBC, donc en Amazonie, au Pérou, dans la région de Loreto, le gouvernement allait donc créer une voie navigable donc sur l'Amazone ou les différents fleuves d'Amazonie afin de faciliter le transport de grandes embarcations, de grands bateaux. Mais quel est-il devenir des petites embarcations des populations indigènes ? Donc les populations de cette région, donc surtout les leaders que nous avions formés, ont pu nous contacter à l'IBC ou d'autres organisations afin donc de se rencontrer et penser, réfléchir à ce que l'on pouvait faire. Et ensemble, donc nous avons vu que l'État pouvait ou même devait consulter d'abord ces populations indigènes. Mais comment, sans cette formation, comment aurait-il pu savoir qu'il pouvait le faire et de quelle manière accéder à ces mécanismes. Donc avec ces personnes qui connaissaient un peu plus à propos de ces sujets, de ces thématiques, ensemble avec donc les différentes populations ou différentes organisations comme l'Église qui était présente dans cette zone, ils ont pu, ou même des organisations qui travaillent sur les droits humains, ils ont pu créer et présenter cette demande à l'État péruvien dans laquelle il devait consulter avant de réaliser consulter sa population avant de réaliser le projet. Et donc c'est un événement qui est presque historique. Et donc cette demande a été basée sur les différentes langues de l'Amazonie. Donc ça a été l'une des premières propositions qui a pu être remporté. Donc le fait d'obtenir cette consultation avant l'organisation de grands travaux. Et donc cela a pu se faire grâce à notre engagement envers ces formations, envers une citoyenneté active, et pour qu'ils puissent proposer des choses en fonction de leur réalité, de leur particularité, cela en fonction également de ce qu'ils vivent. Enfin, donc, avec notre travail sur l'école des leaders, nous travaillons également avec des jeunes que nous formons afin qu'eux-mêmes puissent former les plus jeunes. Et puis finalement, c'est pour que cette citoyenneté soit recréée, répliquée, et même rapportée jusqu'à leur foyer, puisque finalement, c'est le futur, ce sont les générations futures. Et donc, en rapportant cela dans leur foyer, ils peuvent former donc les plus vieux. Et grâce également à la connaissance de leurs droits, qui est une thématique fondamentale et l'un des plus gros manques dans ce pays. Donc, nous basons notre travail depuis l'espérance, qui n'est pas un concept amusant. C'est quelque chose que l'on doit construire avec nos propres mains. Nous devons regarder devant, mais agir dès maintenant. Et donc, nous devons travailler tous les outils que nous avons en fonction de chaque réalité et créer cette espérance dès maintenant.
Et bueno, eso hay que crear razones de esperanzas, ¿no? Gracias.
C'est avec l'intervention de Maricielo Palomino de l'IBC, l'Institut Bartolomeo de las Casas, de Lima au Pérou, partenaire du CCF des Terres Solidaires, que s'achève la retransmission de cette table ronde du CCF des Terres Solidaires, une table ronde qui s'est déroulée le 2 avril 2022 à la Maison diocésaine de Bayonne. Accès aux droits pour toutes et tous, ici et là-bas, regards croisés à travers trois exemples, les AT Caminante et le restaurant à l'envie à Biarritz avec Nicolas Marinier, la ferme Emmaüs Bodon à Tarnos avec Gabriel Muesca et le témoignage donc de Maricielo Palomino de l'Institut Bartolomeo de las Casas de Lima au Pérou.